Et c'est avec grand plaisir qu'on le retrouve cet après-midi, Olivier Beauregard. Bonjour!
Salut!
Il faut absolument revenir en premier lieu sur le match du Super Bowl. Oui, c'était dimanche, mais il y a eu quelques jours depuis. Mais selon toi, c'est le meilleur match de Super Bowl qu'on ait connu?
Ben, en tout cas, c'est l'un des très, très bons des dernières années. Ça, c'est sûr et certain. Écoute, ça a été un match enlevant du début à la fin. Moi, j'ai pas été capable, surtout au quatrième quart, de rester assis sur mon siège. Là, ça s'est terminé, comme vous le savez, là, par une victoire de 38-35 des Chiefs de Kansas City sur les Eagles. Mais ça a été un bon match. Puis, il y a eu tellement d'ingrédients dans ce match-là. Pat Mahomes qui se blesse une fois de plus, qui avait l'air d'avoir finalement empiré sa blessure à la cheville, mais qui reste dans la rencontre, qui revient, puis qui va connaître une deuxième demi tout à fait phénoménale avec les Chiefs de Kansas City.
Oui, parce que quand il s'est blessé, il n'avait pas l'air d'un gars qui était pour revenir tout de suite. Là.
Écoute, avec les grimaces qu'il faisait et la façon qu'il est sorti, moi je me suis dit, hey, c'est fini, le Pat Mahomes n'en revient pas. Ou s'il revient, ça va être clairement difficile. Puis écoute, finalement, il revient à la deuxième demi puis il fait un travail impeccable qui a justement enclenché une certaine remontée parce que les Eagles avaient tellement bien commencé le match. Je me disais, OK, les Eagles semblent être en mission. On veut profiter des largesses, peut-être aussi de Pat Mahomes, du fait qu'il est blessé depuis un certain temps. Donc, non, j'ai trouvé que c'était un très, très bon match de football. Écoute, le mouchoir au quatrième quart qui a un peu changé l'allure du match aussi. C'est un match avec la recette parfaite. Puis au final, tu sais, c'est le meilleur corps arrière qui l'a emporté. J'ai rien contre Hurts, le corps arrière des Eagles, qui est pour moi l'un des meilleurs du circuit. Mais Pat Mahomes est dans une classe à part. On l'a senti, on l'a vu en tout cas. Un gars blessé de cette façon-là qui réussit à organiser, orchestrer une remontée comme ça. Moi, je trouve ça fantastique. Ça nous rappelle les bonnes années de Tom Brady. Puis, tu sais, il y en a qui comparent beaucoup un peu ce que Pat Mahomes fait, mais ce qu'il fait à son âge, les chiffres le démontrent que c'est presque mieux que ce que Tom Brady faisait au même âge. Les Chiefs, il y a 4 ans, avaient battu les 49ers pour leur premier championnat du Super Bowl en 50 ans. Ils avaient participé au Super Bowl également contre les Buccaneers avant de s'incliner. Tu sais, ça devient une équipe qui tranquillement va faire partie de l'histoire. Peut-être la prochaine grosse formation comme les Pats de la Nouvelle-Angleterre que les Pats des années 2000 avaient connu, là, tu sais, tellement de championnats, tellement de participation au Super Bowl. Moi, je pense que c'est vraiment une belle équipe, les Chiefs de Kansas City, qui sont en train de nous démontrer que c'est à long terme. Pat Mahomes et son fameux partenaire de toujours, Travis Kelce, ont dit, après la victoire, ils ont dit, écoutez, c'est pas compliqué, nous, on se voit encore là l'an prochain, le noyau va rester. Et c'est une équipe qui avait essentiellement annoncé qu'elle voulait être en reconstruction cette année. Mais moi, dire une chose, il y a bien des équipes qui vont être en reconstruction puis remporter le dernier match de la saison.
C'est de la belle reconstruction qu'on appelle.
Absolument. Donc, chapeau à la NFL. Très beau match de football. On reparlera du terrain une autre fois. Tu sais, ça a pris 2 ans à bâtir ce terrain-là en Arizona puis s'assurer d'avoir un gazon qui a de l'allure. Puis selon les dires des joueurs, tu sais, j'étais pas là, là, mais selon les dires des joueurs, c'était une patinoire. Alors, ça, c'est la réalité d'aujourd'hui.
Bon, on verra pour la suite. Restons dans le monde du football, Olivier, parce que chez les Alouettes de Montréal, grosse semaine, donc l'équipe est mise sous tutelle, c'est la Ligue qui s'en occupe une autre fois, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Là.
Exactement. C'est ce qui a été annoncé cette semaine, la Ligue canadienne qui a repris le contrôle des Alouettes de Montréal. Et ça fait en sorte qu'on amorce le processus de vente de l'équipe. Là. On le réamorce parce que ça fait pas si longtemps que l'équipe avait annoncé être sous tutelle, puis avait annoncé qu'on tentait de trouver un acheteur potentiel pour l'organisation. Ça avait été fait, mais ça n'a vraiment pas été concluant. Là. Rappelle-toi, Sid Spiegel et ainsi que son gendre, là, je pense que c'est Gary Stern, si je ne me trompe pas, avait décidé de mettre la main justement sur les Alouettes de Montréal en 2019. On se disait, OK, ça s'en va où, ça, cette organisation-là? C'était des Ontariens, on n'était pas certain s'ils connaissaient le marché de Montréal. Donc, eux avaient, disons, c'était porté acquéreur des Alouettes, et ça n'avait pas été nécessairement beau. T'sais, on avait senti que c'était deux personnes qui avaient la mèche assez courte avec, justement, là, les commentaires qu'ils avaient faits sur les réseaux sociaux. Ça critiquait les partisans également, puis on avait même décidé de laisser partir Mario Cicchetti, qui était le président de l'équipe, un gars de Montréal, un gars qui connaît très bien le marché. On avait décidé de le laisser partir, et je me rappelle même que l'organisation des Alouettes à l'époque avait dit que c'était un départ mutuel. Cicchetti, qui est de retour avec l'équipe, là, parce que la Ligue l'a renommé président par intérim, a dit tout récemment, il a dit, écoutez, c'était pas mutuel du tout. Là, moi, j'avais pas l'intention de quitter le navire. On m'a clairement montré la porte. Alors, ça a vraiment été tout une histoire de d'arrière-scène un peu étrange, un peu malsaine. Et là, ben, les Alouettes, le fait qu'ils soient de retour, si tu veux, sous tutelle, ben, c'est un bon signe. J'espère qu'on va prendre le temps de trouver des acheteurs qui ont à cœur l'intérêt des Alouettes de Montréal, tu sais, parce qu'au final, c'est ça que tu veux, là. Tu veux que tes Alouettes soient entre bonnes mains.
Mais est-ce que l'équipe est attrayante pour des acheteurs? Est-ce que les Alouettes ont déjà été en meilleure santé sportive, j'ai l'impression? Est-ce que c'est tentant d'acheter une équipe comme celle-là?
Ben, les installations, non. On va le dire, puis on le dit depuis longtemps, c'est désuet. Là. À Montréal, ça n'a pas de bon sens. Le Stade Percival Molson, à part la belle vue, il n'y a rien d'autre. On s'entend, là, c'est vraiment pas fait pour une équipe professionnelle. Mais ça reste que c'est les Alouettes de Montréal. C'est un marché chaud. C'est un marché qui, avec les bonnes personnes en place, devrait fonctionner, devrait être très attrayant. Maintenant, ça prend des gens qui ont le goût de donner de l'amour à ce marché-là, à cette concession-là, qui ont le goût de donner du temps également. Tu sais, tu veux pas rentrer là demain matin puis dire faut qu'on fasse des profits. Tu veux rentrer là et bâtir une culture. Et ça part pas juste du directeur général puis de l'entraîneur-chef. La culture, ça part des bureaux administratifs. Tu sais, on l'a vécu, là, Sébastien, là. Dans les derniers jours, là, on pouvait signer des joueurs dans la Ligue canadienne de football. Eh ben, du côté de Danny Maciocia, il a pas pu signer parce qu'on lui a dit, t'as plus le droit de faire aucune dépense. Fait que t'as perdu ton corps arrière numéro un en Trevor Harris. T'as perdu Eugene Lewis, qui était probablement l'un de tes meilleurs receveurs aussi parce que tu pouvais pas égaler les offres qu'il avait ailleurs. Puis tu peux pas critiquer ces joueurs-là, là. Eux, ils se sont dit, on sait même pas ce qui s'en vient avec les Alouettes. Fait que nous, on signe ailleurs puis on s'en va. Et là, Danny Maciocia, mardi à 9h, a appris qu'il pouvait commencer à sortir le chéquier. Il a commencé le party en retard, pour reprendre son expression, puis il a essayé de signer les joueurs qui pouvaient. Tu sais, juste te dire à quel point l'environnement n'était pas sain. Même Danny Maciocia l'a dit publiquement, il a dit « J'ai changé, quitter le navire, là, parce que ça s'en va nulle part. » Puis finalement, la meilleure chose qui a pu arriver, c'est arrivé. La LCF qui reprend le contrôle de ça, et qui là va retrouver des acheteurs potentiels. Mais ça m'amène à vous dire que si il n'y a pas personne qui se porte acquéreur de cette franchise-là avec des bonnes intentions, des intentions de créer une culture, de créer un engouement à Montréal pour le football de la Ligue canadienne, tu sais, au final, Sébastien, dans 2 mois, on va s'en reparler, puis on va déjà être dans des premières déclarations un peu étranges. Puis dans 1 an, on va se dire où s'en vont les Alouettes de Montréal. Fait que prenons le temps, là. Je pense que la Ligue canadienne peut se le permettre. Prenons le temps un petit peu de trouver des acheteurs sérieux qui ont les intérêts de l'organisation à bonne place, parce que c'est pas un marché que la Ligue canadienne a intérêt à perdre, soit dit en passant. C'est un marché important pour la Ligue canadienne de football. Fait qu'il faut qu'il fasse le travail nécessaire pour le faire.
Et sinon, ben, terminons dans le monde du hockey, parce que la date limite des transactions, tranquillement, ça s'en vient, tout ça, puis on commence à avoir un meilleur portrait de ce qui s'en vient?
Ben, les directeurs généraux commencent à discuter dans les médias un peu de ce qu'ils veulent faire. On commence à voir un peu leur jeu de cartes. Et si je commence à Ottawa avec Pierre Dorion, là, ben il y avait un point de presse aujourd'hui. Pierre Dorion a parlé justement de plusieurs dossiers. Et je suis le premier surpris. Là, ce qu'on comprend de ça, là, de ce point de presse-là, c'est que les Sénateurs vont être acheteurs et non vendeurs à la date limite des transactions. Pourtant, ils sont pas dans le portrait des séries. C'est vrai qu'ils connaissent, si tu veux, un bon passage présentement avec plusieurs victoires. Mais ça reste que c'est une équipe qu'il va falloir qu'ils se battent pour avoir une place en séries éliminatoires, puis ça sera pas facile. Mais Pierre Dorion a dit en point de presse aujourd'hui, savez-vous quoi? Nous, on n'a pas l'intention d'échanger Alex DeBrincat. On veut le garder avec l'équipe. Puis DeBrincat, même s'il devient joueur autonome avec compensation à la fin de la saison, puis on aurait pu aller chercher énormément pour lui, on a décidé de le laisser partir. On a décidé de le garder au sein de l'organisation. On n'a pas l'intention d'échanger. Alors ça, on verra, parce que Pierre Dorion a dit ça à plusieurs reprises. Hein. Il a dit ça d'Éric Carlson, il a dit ça de Jean-Gabriel Pageau. Puis ces gars-là, présentement, jouent pour d'autres équipes de la Ligue nationale. Alors, c'est pas fait, là, c'est pas coulé dans le béton jusqu'à 3 heures à la date limite des transactions, mais ça reste qu'il montre quand même ses cartes. Il veut aller chercher un défenseur, c'est ce qu'il a mentionné, un défenseur de premier plan. On verra ce qu'il est prêt à faire pour ça. Cam Talbot, qui est le gardien théoriquement numéro 1 de l'équipe, ben là, est-ce qu'on veut le marchander ou est-ce qu'on veut le garder dans l'entourage? Ça sera à suivre. Mais Pierre Dorion, de la façon qu'il parle, il a encore confiance que son équipe fasse les séries éliminatoires. C'est vraiment une chaude lutte avec les Capitals de Washington. Alors, on verra si les Sénateurs sont capables de se faire un chemin jusqu'en série. Mais écoute, moi, je veux pas être négatif, là, mais c'est une équipe qui est très talentueuse, mais je sais pas si c'est une équipe qui est bâtie pour aller en séries éliminatoires. On verra. Mais si Pierre Dorion croit que son équipe peut avoir une chance, ben tant mieux, chapeau à lui, parce qu'en fait, il a eu un été mouvementé, il a travaillé fort. J'ai l'impression qu'il manque peut-être 3-4 pièces au puzzle. Puis c'est pas cette année qu'on peut mettre ces 3-4 pièces-là pour remporter, ou du moins pour avoir un parcours intéressant en série. Voyons voir. D'abord, ça va commencer par une participation aux séries. Si c'est le cas, tant mieux. Ce sera déjà une victoire dans son cas. Puis si on n'est pas capable de participer aux séries, ben il va falloir faire une analyse complète de ce qui n'a pas fonctionné cette année. Mais ça, on est encore loin de ça. Et peut-être en terminant, de dire que du côté du Canadien de Montréal, ben ça, c'est sans surprise, le Kent Hughes va sûrement être vendeur. Il y a des gars comme Joel Edmondson que je m'attends à voir partir. Okay. Peut-être même Sean Monahan, qui a été blessé une partie de la saison, mais que depuis le début de l'année a été très intéressant. Je pense qu'il y a des équipes qui pourraient être intéressées à acquérir ses services. Puis il y en a d'autres, là, des Mike Hoffman de ce monde, c'est pas impossible. Ça va être dur à échanger en raison de leur contrat, mais c'est des gars sur un avantage numérique pour une équipe qui prétend à la Coupe Stanley, qui pourrait être très intéressant. Jake Allen, moi, selon moi, Sam Montembeau est en train de montrer qu'il est capable de prendre le filet jusqu'à la fin de l'année, puis ça n'aura pas nécessairement d'impact parce qu'il fait le travail. Alors, est-ce que Jake Allen pourrait être marchandé? Puis, tu sais, il y en a d'autres questionnements par rapport à ça. Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ne peuvent pas être marchandés. Okay. Il y a quelques intouchables chez le Canadien, là, mais des Josh Anderson, même Brendan Gallagher de ce monde. Est-ce que c'est des gars qui peuvent se retrouver sur le marché des transactions? Assurément. Ils ont des contrats pas faciles à échanger, là, soyons honnêtes. Là, c'est des gros contrats pour ces joueurs-là. C'est pas toutes les équipes qui peuvent se permettre ça, mais c'est des joueurs qui peuvent aller aider des équipes qui veulent aller là, justement là, faire un bon bout de chemin en série éliminatoire. Alors, ça serait intéressant de voir qu'est-ce que Kent Hughes peut faire pour d'ici la période de la date limite des transactions, parce que à ce moment-là, ben ça va nous montrer où ce que le Canadien va se situer, surtout pour le repêchage 2023 à Nashville. Moi, je pense que le Canadien a déjà des bonnes cartes là dans sa manche. Et Kent Hughes a l'air d'un gars qui travaille très, très bien dans les coulisses. Pas un gars qui vient dans les médias et qui discute de ses plans. Mais on a l'impression que c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se faire également. Alors, on verra. Moi, je pense que, tu sais, même si Jonathan Drouin, si on est capable de le passer dans une transaction pour le Canadien, ça va déjà être très, très intéressant. Alors, on verra, mais c'est sa dernière année de contrat. De toute façon, il y a peut-être des équipes qui vont être prêtes à aller le chercher. À suivre, mon ami.
On va s'en reparler assurément. Olivier Beauregard, un grand merci pour ton temps aujourd'hui.
Un plaisir. Bye-bye.